J'ai beaucoup économisé, j'ai beaucoup investi. Et à 30 ans, j'avais déjà atteint mon premier seuil d'indépendance financière ou de liberté financière, qui était de 4 000 euros par mois. Et un petit peu plus tard, donc 2 ans après, j'étais au vrai seuil que je voulais atteindre, donc de 8 000 euros par mois.
Bienvenue dans Finary Talk, le podcast qui vous parle de vos finances et vous apprend à mieux investir. Finary, c'est l'appli et le site pour gérer tout votre patrimoine au même endroit. Notre mission, vous permettre d'atteindre vos objectifs en mettant la technologie au service de votre argent. Rejoignez-nous sur finary.com et ensemble, construisons le futur de l'investissement. Pour ce deuxième épisode, nous recevons Victor Laura, pionnier du mouvement FIRE en France. Victor a atteint son premier seuil d'indépendance financière à 30 ans, 8 000 euros net par mois, et il partage aujourd'hui avec vous ses méthodes et ses conseils pour vous lancer à votre tour. Bonne écoute.
Bienvenue à tous. C'est le deuxième Finary Talk qu'on organise. Le premier, c'était sur investir comme un millionnaire. Le deuxième, c'est sur devenir millionnaire pour ensuite partir à la retraite, en gros. Et donc, les Finary Talks, c'est des talks qu'on organise pour parler de thématiques de l'investissement. L'idée, c'est à chaque fois d'inviter une personne experte de son sujet. Donc ici, Victor du FIRE. La dernière fois, c'était un gestionnaire de fortune qui gère des patrimoines de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions d'euros. Et donc, voilà, ils partagent leur savoir, ils partagent leurs astuces. Et l'idée, c'est que vous preniez un maximum et que vous puissiez appliquer ça à votre propre stratégie. Le Finary Talk, c'est organisé par, vous l'aurez deviné, Finary. Finary, c'est un outil qui permet de suivre son patrimoine en ligne et en temps réel. Vous pouvez connecter tous vos comptes, vous pouvez ajouter votre immobilier locatif, votre RP, et on est capable de valoriser en fait tous vos actifs en temps réel. Et la vraie différence, c'est qu'on est hyper exhaustif, on couvre toutes les classes d'actifs, en tout cas on essaye, on en ajoute en permanence, et on développe ce produit depuis maintenant un peu moins d'un, depuis quasiment un an avec Julien, mon cofondateur, et notre équipe à Paris. Et la communauté a été une partie hyper importante et est toujours une partie hyper importante. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours et n'hésitez pas à vous inscrire. C'est gratuit. Donc, pourquoi ne pas en profiter? Top. Assez parlé de Finary. Parlons de toi, Victor. Merci encore d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous parler un peu de ton parcours et comment finalement tu es arrivé au FIRE?
Yes. Alors, ben, merci Mounir pour l'invitation. J'ai eu le plaisir de te rencontrer dans les bureaux de Finary, donc très sympa. Alors, du coup, moi, c'est Victor, j'ai 33 ans, ça fait plus de 10 ans maintenant que je m'intéresse à tout ce qui est mouvement FIRE. Donc, FIRE, c'est quoi? Ça veut dire Financial Independence and Retire Early, donc indépendance financière et retraite précoce. Je pense qu'on a beaucoup qui sont ici, à mon avis, ils savent déjà un peu de quoi ça parle. Donc, c'est un mouvement, c'est un style de vie, on pourra rentrer dans le détail. Bonjour, bonsoir tout le monde. Et du coup, moi, d'où je viens, école d'ingénieur, école de commerce, banque d'affaires dans un premier temps. Et après, je suis assez vite passé dans tout ce qui est start-up et plutôt direction de start-up, petite, grosse, voire très grosse. Et du coup, j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Donc ça, c'est ma vie un peu pro et ma vie perso. Du coup, FIRE. Donc j'ai beaucoup économisé, j'ai beaucoup investi. Et à 30 ans, j'avais déjà atteint, alors parce que j'aurai beaucoup de questions là-dessus, mais moi, mon premier seuil d'indépendance financière ou de liberté financière, qui était de 4 000 euros par mois. Et un petit peu plus tard, donc 2 ans après, j'étais au vrai seuil que je voulais atteindre, donc de 8 000 euros par mois. Voilà.
Top. Donc, quand tu dis 8 000 euros par mois, c'est 8 000 euros de revenus passifs, c'est ça?
C'est 8 000 euros par mois de revenus passifs après impôt.
OK. OK. Et donc, très concrètement, là, aujourd'hui, enfin, c'est comment t'es passé de cadre, finalement, dans des startups ou banquier à 8 000 euros par mois de revenus passifs? C'était quoi les différentes étapes?
Alors, première étape, c'était un peu la prise de conscience que donc je travaillais dans tout ce qui était banque d'affaires. Donc, normalement, avant, c'était des métiers, même aujourd'hui, des métiers qui sont très bien rémunérés. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, je me voyais pas rester 10 ans, 20 ans dedans. Et je me suis dit qu'il faut trouver une alternative. J'ai cherché à l'époque, en 2010-2011, sur des forums américains. Je suis tombé sur le mouvement FIRE. Et en gros, j'ai compris qu'il fallait commencer à investir. Donc, progressivement, j'ai commencé à beaucoup épargner. Beaucoup investi en bourse et j'ai aussi commencé à faire pas mal d'acquisitions en immobilier. Et après, j'ai lancé des side business, donc des business automatisés qui permettent de faire des revenus passifs. Donc j'ai fait tout ça en parallèle de cadre, si tu veux, dans une banque et plutôt cadre dans des startups.
Ouais, parce que tu me disais que tu partais le week-end ou tu partais assez fréquemment t'occuper de tes appartements juste après tes heures de travail, où tu avais un rythme assez soutenu finalement parce que tu avais deux boulots en fait.
Ouais, c'est ça. En fait, j'ai eu la chance de commencer par un métier qui demande de beaucoup, beaucoup travailler. Donc, 90-120 heures par semaine. Donc, grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Vous commencez à 9h30, vous finissez à 2h du mat tous les jours. Et du coup, quand j'ai quitté ce milieu-là, indirectement, je suis passé en start-up. On bosse quand même beaucoup, mais un peu moins. Mais j'ai gardé ce rythme-là. Et en fait, j'ai divisé mon temps en deux.
Du coup, tu avais du temps libre, en fait.
J'avais du temps libre pour faire des invests. Et du coup, en fait, les investissements, je les traitais comme du boulot, quoi.
OK. Et donc, justement, les investissements, tu as parlé de trois choses. Tu as parlé de la bourse, tu as parlé de l'IMO et tu as parlé des side business. Est-ce que tu peux vraiment rentrer dans le détail sur les trois et nous dire concrètement ce que tu fais, ce que tu as fait ou ce que tu fais encore aujourd'hui?
Ouais. Alors, premier élément, du coup, FIRE en français, c'est souvent traduit par frugaliste. Donc, ça veut dire avoir une vie frugale. Alors, pourquoi? Donc, FIRE, ça vient des années 90 aux États-Unis. C'est principalement, comme je pense les personnes qui sont ici ce soir, des personnes dans la tech qui gagnent assez bien leur vie. Et grosso modo, il y a un chiffre à retenir. C'est si vous économisez 75% de vos revenus aujourd'hui et que vous habituez à vivre avec 75% de vos revenus, en 8 ans, vous êtes à la retraite. Donc, le calcul, si vous voulez, je l'ai fait sur Insta, on peut le faire là si ça t'intéresse. Mais en gros, à partir, il y a une hypothèse qui drive ça. Et en gros, ça vous permet de comprendre assez vite. Moi, dès que j'ai compris ça, je me suis dit, OK, en gros, il faut que j'épargne comme un porc et que je m'habitue à vivre en dessous de mon niveau de vie, quoi. Et donc, ça, c'est la première règle. Cette première règle, elle s'applique principalement avec la bourse. Donc, concrètement, c'est quoi? Là, aujourd'hui, vous dites, OK, bon, déjà, il faut revoir votre niveau de vie. Donc, ça peut être un peu compliqué. Il y a d'autres solutions après. Hein, c'est propre à tout le monde. Et vous ouvrez les comptes qui ont moins de fiscalité, donc PEA, assurance vie, dans des endroits où ça coûte vraiment pas cher, et avec principalement des courtiers qui ont des frais très peu élevés. Donc, il faut oublier toutes les banques un peu traditionnelles. Et après, vous investissez en bourse. Et ce qui est le premier investissement qui est pas mal pour les FIRE, c'est ce qui est fait aux États-Unis. Donc, c'est des ETF, donc des produits qui répliquent des indices. Et en gros, il y a très peu de frais. Et en gros, vous achetez ça et vous achetez des ETF monde. Donc, il y en a principalement deux en France qu'on peut acheter. Donc, il y en a un CW8 Amundi et il y a un Lyxor, mais qui est en train de faut voir ce qu'il va donner parce que vu qu'Amundi a racheté Lyxor, bon, faut voir ce que ça va donner.
Ils vont probablement fusionner, ouais.
Ouais. Donc, tu fais ça, t'achètes et tous les mois, tu mets une grosse partie de ce que t'épargnes de ton salaire. Et là, paf, là, t'es le modèle américain que tu répliques. Pas exactement, mais presque. Et une fois que tu as fait ça, donc là, tu es on track pour la bourse. L'objectif, c'est tous les mois vraiment d'épargner des montants conséquents et voir ce que ça donne. Aujourd'hui, cette partie bourse, tu peux un peu la pimenter avec crypto. Je pense qu'il y en a pas mal qui font ça ici. Enfin, tu peux pousser le modèle après plus loin. Tu peux changer d'ETF, tu peux faire ça. Mais déjà, dès le début, commencer par ça, c'est pas mal.
Juste pour... Ouais. C'est hyper intéressant. D'ailleurs, les frais, on les analyse sur Finari. Donc, si vous avez des vieux contrats d'assurance vie, je pense que vous allez avoir une petite crise cardiaque en faisant scanner votre portefeuille. Mais tu parlais de 75% de ton salaire. Si c'est pas indiscret, tu gagnais combien à l'époque?
Alors, moi, j'ai eu...
C'est complètement indiscret, mais si tu veux bien partager indiscret. Le chiffre.
J'ai eu des salaires différents. Donc, quand je gagnais le mieux dans ma vie, j'étais à 12 000 euros par mois. Et mon dernier salaire, j'étais à 5 000 euros par mois. Un peu plus de 5 000 euros par mois.
OK.
Et quand j'ai commencé, j'étais à moins. Mais j'étais quand même à des salaires dans les tranches assez élevées.
D'ailleurs, ça, c'est, et on reviendra sur le sujet juste après, c'est quand même un peu quelque chose qu'on voit pas mal dans les forums FIRE, c'est que la première chose, c'est qu'il faut gagner beaucoup d'argent pour pouvoir économiser beaucoup. C'est avoir un salaire élevé, enfin, pas être millionnaire, mais avoir un salaire élevé, c'est quand même quasiment du prérequis. On peut pas être FIRE au SMIC, en gros.
Alors, très bonne transition, Mounir, t'es fantastique.
Merci.
Transition sur l'immobilier. En fait, on a, aux États-Unis, effectivement, il vaut mieux, quand vous commencez, par exemple, si vous êtes vraiment ric-rac tous les mois, économiser 75%. Enfin, tu vois, disons que tu habites en région parisienne, tu gagnes 1500 euros par mois. Économiser 75% de 1500, franchement, c'est chaud, même si tu es en coloc, si tu habites chez tes parents, OK, mais ça va être compliqué. Par contre, et après, il faut t'habituer à vivre avec 75% de tes 1500, donc ça fait pas énormément d'argent. Et il y a des risques sur la fin parce que, du coup, moi, je suis un peu monsieur, genre business plan de ma vie. Donc, si vous regardez les maisons de retraite, c'est cher. Donc, à un moment, il faut quand même prévoir d'avoir assez de moyens pour payer la maison de retraite. Enfin, bref. En France, on peut un peu truquer le système parce qu'on a l'immobilier. Donc, c'est le deuxième truc. Et donc, votre objectif avec l'immobilier, c'est d'avoir une voilure maximum. Vous êtes un bateau. Vous avez une petite voilure, c'est votre capacité d'endettement au début quand vous commencez. Donc, 35% en gros de ce que vous avez comme revenu du salaire. Et avant 33, maintenant 35. Et là, vous pouvez emprunter du coup et investir. Si vous faites bien et que vous investissez dans des biens, vous pouvez voir tous les gars sur YouTube qui parlent de ça. Si vous investissez à 12%, en fait, vous pouvez, votre petite voilure, par exemple, si aujourd'hui vous gagnez, je sais pas, à peu près 3000 euros par mois, vous pouvez emprunter 250 000 euros. Si vous investissez dans des biens qui sont à 12% par mois, vous pouvez, au lieu d'emprunter 250 000, vous pouvez emprunter 500 000, voire 750 000. Du coup, votre voilure, elle augmente énormément. Rappelez-vous du début, en fait, FIRE, c'est quoi? C'est avoir assez de capital investi pour pouvoir en vivre. Du coup, il y a, et l'immobilier, en France, même si vous avez des petits salaires, en fait, on est un pays qui est vraiment, vraiment ouvert. Et du coup, on peut emprunter, enfin même avec des petits salaires en France. Et ça, c'est bien. Aux États-Unis, c'est pas possible, par exemple. Enfin, c'est possible avec des taux d'intérêt qui sont énormes.
Ouais, et puis des taux qui sont pas fixes. Donc, c'est d'ailleurs, c'est ce que disait Benjamin aussi, notre intervenant au premier talk, c'est qu'en fait, on a un système qui est, c'est quasiment de la triche, en fait. Donc, c'est vraiment dommage de pas en profiter à fond.
Ouais, même dans les pays européens à côté de nous, vous allez au Portugal, vous voulez acheter quelque chose, les premiers taux qu'on va vous proposer, c'est du taux variable sur le Euribor. Donc, sachant que là, on est en taux négatif.
Ouais, c'est très faible, c'est hyper faible.
Du coup, si, si demain, après, on peut jamais prédire l'avenir, mais s'il y a un peu de croissance, que les taux remontent, etc., pour éviter de l'inflation, peu importe, bah, vous pouvez retrouver à rembourser énormément votre appart, quoi.
Mmh. Ok. Et donc, sur ces biens, c'est quoi le premier bien que tu as acheté? C'est quoi ce qui a marché, en gros, là-dedans?
Ouais, alors, premier bien qui a marché, que j'ai acheté a marché, mais pas pour les bonnes raisons. Du coup, quand vous êtes dans l'immobilier, il y a plein de moyens de faire de l'argent et c'est fantastique. En gros, vous achetez un bien, vous le revendez plus cher, vous faites de l'argent. Vous achetez un bien, vous le louez et lorsque votre loyer est au-dessus de toutes les charges, vous gagnez de l'argent tous les mois là aujourd'hui et en plus, vous remboursez du capital. Bref, moi j'ai commencé, j'avais rien compris à l'époque. J'ai acheté un appartement à Paris où j'en ai fait une colocation. Ça c'était bien, j'avais compris un sur deux, tu vois. Et à un moment, j'ai même fait du Airbnb au tout début du Airbnb, donc j'ai pas mal gagné d'argent au début. Par contre, j'ai acheté un bien, à l'époque, c'était pas les prix d'aujourd'hui, mais c'était quand même relativement cher. Donc, en termes de renta, à part le Airbnb, au début, c'était délirant, j'avais pas des rentas de biens qu'on cherche lorsqu'on veut faire du FIRE.
C'était quoi les prix du mètre carré à l'époque à Paris? C'était 8000, quelque chose? C'était encore en dessous, 7000?
Ah, j'étais en dessous. Moi, j'ai acheté des rez-de-chaussée. Enfin, j'étais pris, 55 mètres carrés. J'étais en dessous de 8000 euros. Faut pas que je te donne de bêtises, mais j'étais largement en dessous de 8000 euros.
Ok. Et donc ça, ce premier bien, tu l'avais trouvé toi-même, c'est toi qui avais fait, tu avais rénové, c'était quoi les détails de l'opération?
Alors, je l'ai trouvé moi-même, je suis passé par un agent, je l'ai rénové. Au début, je voulais le rénover seul. Et là, j'ai eu la brillante idée de demander un conseil à mon père qui m'a dit « Victor, ne fais jamais ça, passe par des personnes pour rénover, tu vas jamais t'en sortir et toi concentre-toi là où tu génères le plus de valeur, donc c'est-à-dire ton travail quoi. » Et du coup je l'ai rénové puis je l'ai mis en location. Donc au début c'était un deux chambres avec un salon et là aujourd'hui je l'ai encore, donc il est à côté du métro Pasteur à Paris et c'est un trois chambres et chaque chambre est louée 700 euros.
Ok. Et donc tu disais un sur deux, donc c'est quoi la leçon que tu as tiré de ça et après c'est quoi les biens que tu as fait par la suite?
La leçon que j'ai tirée du premier appartement, c'est que c'était pas assez rentable et que ça consommait énormément de capacité d'emprunt. Donc, j'ai fait une grille avec le premier invest. Et du coup, là, j'ai fait une petite astuce. En gros, j'ai créé une société civile dès le début, en fait. Ce qu'il faut absolument pas faire si vous commencez. On pourra répondre à plus. Vous lancez pas dans des micmacs. Je sais que c'est intéressant et que ça donne un peu envie quand on crée des boîtes et tout, voire des holdings, machin, mais faut pas forcément commencer par ça. Bref, en fait, moi, j'avais tellement atteint ma capacité d'endettement maximum que j'ai créé une SCI. J'ai séparé la nue propriété de l'usufruit. On pourra rentrer dans le détail. Et en fait, quelqu'un d'autre portait l'endettement à ma place. Et du coup, moi, j'ai pu refaire une deuxième opération.
Ok, intéressant. Alors là, je voyais des questions. Tu gérais toi-même ou tu déléguais? Vu que tu faisais du Airbnb, il devait y avoir un turnover de dingue. Comment tu faisais quand tu verrais ça?
Je faisais tout moi-même. Alors, quand je faisais du Airbnb, j'étais quand même dans l'appart. Vous imaginez, vous êtes dans l'appart, vous louez votre deuxième chambre. Et d'ailleurs, à l'époque, ma cousine...
C'était vraiment Airbnb du tout début, ça. C'était Airbnb original, en fait. C'est l'idée de... Tu loues ta chambre, quoi.
Tu loues ta chambre et tu la loues franchement pas mal. Et il n'y avait pas de concurrence. Donc, j'étais tout seul avec mon appartement.
Ouais, c'était incroyable.
C'était l'extase.
C'était pas encore dans le radar de la ville. des impôts. Enfin, c'était un peu n'importe quoi. C'était le Far West.
Ouais, alors j'ai toujours payé mes impôts. Mais effectivement, ça reste, donc je pense qu'il y en a plein qui n'ont pas payé d'impôts là-dessus. Et si tu veux, je faisais, je sais pas, entre 2000 et, ouais, entre 2000 et 6000 euros par mois, avec une chambre.
Ouais, donc délirant.
Donc j'étais pas trop mal. Et en gros, je faisais tout seul. Sauf que, bon, après, ça dépend. Encore une fois, on peut retomber sur les 75% d'économie. Si vous voulez vraiment économiser 75%, vous retournez chez vos parents, ils vous font la bouffe, vous payez rien et vous habitez pas loin de là où vous bossez. Et OK, c'est parti. Sauf que après, faut voir les concessions que vous faites par rapport à votre vie. Et moi, ma copine en avait marre. Si tu veux, on recevait à 4h du mat, enfin à 3h du mat, des personnes qui arrivaient de Hong Kong, qui s'étaient perdues deux fois en taxi. Fallait les recevoir. J'ai reçu la terre entière, Covid-proof, pas du tout, tu vois. La terre entière dans cet appart, quoi.
Ça marche. Donc, premier appart, semi-échec, mais finalement, qui te met pas dans le rouge. Et ensuite, tu peux rentrer dans le détail de l'usufruit et de la nue-propriété, parce que c'est hyper intéressant. C'est quoi le schéma? Ça coûte combien? Comment tu structures ça?
Ouais, alors, en gros, l'objectif, alors généralement, ce montage est utilisé lorsqu'on veut faire de l'héritage, lorsqu'on veut passer des biens à ses enfants. Le système, c'est quoi? C'est vous créer une SCI, donc à l'IR ou à l'IS, c'est comme vous voulez. Et du coup, une fois que c'est une entreprise, ça va juste encapsuler votre bien va être acheté par une entreprise. Et une fois que le bien est acheté par entreprise, ou quand vous créez les statuts de la SCI d'ailleurs, ce que vous faites, c'est que vous allez dissocier les revenus de votre bien de qui est propriétaire des murs. Et en gros, les revenus du bien, c'est l'usufruit, et propriétaire du mur, c'est la nue propriété. Et l'usufruit, en fait, la personne qui a l'usufruit va non seulement avoir les revenus, donc si vous louez un bien à 2000 euros par mois, il va rajouter 70% fois 2000 euros par mois, enfin, ça dépend comment c'est fait, mais là, c'est une SCI, donc disons, va rajouter ces revenus-là tous les mois sur ses impôts, et va aussi être en charge de l'endettement. Donc, va être responsable du remboursement de l'emprunt, tout le monde sera réellement responsable, mais tous les mois, il n'y a que cette personne-là qui va porter l'endettement. Donc, c'est ça qui est intéressant.
Ok, et donc toi, tu étais dans quel rôle dans l'opération?
Nue propriété, parce que je ne voulais pas porter l'endettement, parce que sinon, je ne pouvais pas faire de deuxième opération. Quoi qu'il arrive, surtout quand vous commencez, il faut faire très attention à votre taux d'endettement, parce que assez vite, vous allez vous retrouver bloqué. Quoi qu'il arrive, vous allez vous retrouver bloqué, sauf ouais. Si vous commencez à être assez étoffé, et alors là, vous pouvez casser des plafonds, aller assez loin. Mais il faut quand même atteindre un niveau de patrimoine, même net, assez conséquent.
Oui, parce qu'en fait, effectivement, même si tu as 10 appartements, mais que tu n'en détiens que 3%, enfin, net, c'est ça qui sera pris en compte finalement. Ta capacité d'endettement sera quand même très impactée. Ok, donc ça, c'est premier appartement. Deuxième appartement, du coup, c'est qu'est-ce que tu adaptes? Qu'est-ce que tu changes?
Alors, j'adapte un petit peu. Je rachète à Paris, mais beaucoup moins cher. Donc, okay. Je rachète un truc à Paris. C'est pas tout à fait ça non plus, mais moins cher. Donc là, vraiment moins cher. Et j'arrive à quelque chose de pas trop mal. Donc là, c'est le deuxième appartement que j'ai fait, 41 mètres carrés, toujours dans le 15e à Paris. Et après, là, je suis passé à des éléments beaucoup plus rentables. Et du coup, là, je suis parti. En gros, je suis sorti de Paris déjà. Voilà. Moi, j'ai grandi à Paris, etc. Donc voilà. C'est dur quand vous grandissez à Paris, que vous connaissez que Paris, etc. Il faut voir que le monde est très grand. Ouais, non, ça aide quand même pour les mots. Bah, j'avais fait des grandes villes, mais plutôt, tu vois, plutôt des grandes villes à l'étranger. Donc
T'as fait la rive gauche, rive droite, et après.
Juste rive gauche, je suis pas bougé de la rive gauche, tu vois. J'ai pas encore compris que le 18e c'était bien, tu vois. Non, mais je suis parti.
Je t'inviterai.
Ouais, voilà, tu vois, je suis parti à Los Angeles ou je suis parti à Londres, mais ça reste des. C'est pas la même chose, quoi. Mm. Et du coup, après, je suis parti sur des invests, banlieue proche. Du coup, Aubervilliers, à l'époque c'était très bien, maintenant c'est très cher, enfin c'est trop cher pour faire ce type d'investissement. Je suis parti à Troyes, je suis parti dans l'Est, à Metz, et je suis parti en Bourgogne-Franche-Comté. Donc je suis allé dans des endroits où progressivement, en fait, j'ai indirectement pris plus de risques et je suis arrivé à des rentas, oui, de 10, 14, 16%. Et ça, c'est possible à Paris, c'est impossible maintenant, c'est beaucoup trop cher. Île-de-France, il y a encore des endroits, mais c'est compliqué. Enfin bon, faut s'éloigner, quoi.
Et du coup, enfin là, c'est quand même un peu super éclaté entre il y a Metz, il y a Troyes et il y a je sais pas à Dijon peut-être. Du coup, c'était quoi? C'était opportuniste. C'était quoi ta méthode pour trouver le bien et pour le sourcer, pour dire si c'est un bon bien ou pas, aller sur place. Enfin comment? Et après, comment tu faisais les travaux parce que tu connaissais pas forcément les ouvriers, les artisans sur place?
Ouais. Du coup, une fois que donc il y a quelques éléments à savoir pour se lancer dans l'immobilier, c'est déjà calculer une rentabilité et savoir, il y a des ratios, donc comme la renta brute. Alors, ça dépend comment c'est calculé, il faut faire attention. Et moi, je serais vous, je la ferai d'une manière assez conservatrice. Donc, en gros, c'est votre loyer hors charge x 12 divisé par le coût total d'acquisition de votre bien plus les travaux. Pourquoi ?
Parce que le coût total, c'est avec les frais de notaire, c'est avec frais du, enfin, tout ça, quoi, frais de l'emprunt aussi.
Tu n'as pas les frais d'emprunt.
OK.
Donc, donc en gros, tu as ton prix, si ton bien il est à 100 000, tu rajoutes 8% pour les frais de notaire, tu rajoutes dans 100 000, normalement, tu as tes frais d'agence déjà dedans. Et là, si tu as 30 000 euros de travaux, tu rajoutes 30 000 euros. Et en gros, ton objectif, quand tu regardes ce ratio-là, il faut. Alors, il y a plusieurs façons de le calculer. Moi, je le calcule en tout cas comme ça. En gros, quand tu es en dessous de 7%, ça veut dire que tu es en. Enfin, c'était à 7% ou 6-7%, ça dépend, mais en gros, tu es en cash flow neutre. C'est-à-dire que ton flux de trésorerie à la fin de l'année, il est de zéro. C'est-à-dire que ton bien, à la fin de l'année, tu payes tout, tu reçois tous tes loyers, tu payes toutes tes charges, tu as une balance neutre.
OK.
Après, si tu arrives dans les 12, 13, 14, même 16%, c'est là où, en fonction du loyer que tu as, donc plus tu achètes des choses qui se louent bien, plus tu peux avoir quelque chose qui te reste tous les mois.
OK.
Alors après, on peut ajuster, effectivement, parce que je vois dans les commentaires, on peut ajuster ce calcul en mettant qu'on va avoir 10% de vacances, etc., etc. Tout ça, ça vient après de l'étude de la zone que tu fais. Après, pour trouver une zone, le premier élément, c'est quoi ton budget ? Tu as 250 000 euros, tu peux rester en Ile-de-France. Pour faire des colocs, tu n'as pas 250 000, tu as 100 000 euros. Là, tu restes pas en Ile-de-France. Tu es dans des petits villages, là où le prix au mètre carré est à 500 euros, 1000 euros du mètre carré. En fait, tout dépend de combien, de quel est ton budget, quoi.
Et donc toi, c'était quoi comment par exemple tu as trouvé l'appartement à Metz ou un des appartements à Metz?
Alors là, gros concours de circonstances pour l'appartement de Metz, communauté Fire. Donc dans la communauté, il y a des personnes qui étaient intéressées pour acheter des biens immo.
Ah oui, j'ai vu que tu avais fait un post dessus même.
Ouais, je crois que j'avais fait
sur un Insta ou.
Ouais. T'as Johnny qui est devenu une grosse star maintenant, qui est dans la communauté Fire, et du coup on a organisé un week-end, et dans le week-end on a visité 5 biens qui franchement étaient pas mal à Metz, et on est tombé sur ce bien, 70 000 euros hors frais de notaire, où on peut faire 4 chambres et louer les chambres 450, et si t'es vraiment bon 500 euros quoi, 480, et si t'es pas bon 350, et tu peux en faire une coloc qui est vraiment rentable. Et le seul problème, c'est que ce jour-là personne ne s'est positionné pour l'acheter. Et du coup, moi, j'aurais dit, positionnez-vous maintenant, sinon, moi, je l'achète. Personne ne s'est positionné. Du coup, en rentrant dans le train, je l'ai acheté. Donc, je me retrouve avec un appart à Metz, comme ça. Voilà. Et là, les travaux sont en cours.
OK, ça marche. Et après, les travaux, comment tu fais pour trouver t'as ta méthode, tu fais toujours les mêmes trucs, t'as toujours les mêmes meubles, les machins. C'est de standardiser. Je sais que t'aimes bien scale les trucs. Donc, comment t'as réussi à scale cette partie-là qui est quand même hyper chronophage et pas hyper intéressante?
Ouais, c'est tout à fait ça. Donc moi, c'est, j'ai un gros fichier Excel où j'ai tous mes meubles avec tous les prix de mes meubles, presque en real time. Avec, il y en a beaucoup, c'est du IKEA, tu vois. Toujours la même chose. J'achète toujours les mêmes meubles parce que je connais les défauts. Il y a toujours des défauts, etc. Je sais quand ça craque ou pas, etc. J'ai même un petit peu de stock à force de trucs que j'ai à côté. Donc ça, c'est fait. Et pour les travaux, deux solutions. Donc moi, j'ai une équipe qui, du coup, vu que je fais beaucoup de travaux, parce que là, je suis quand même j'ai beaucoup d'investissements immo. Du coup, mon équipe de travaux me suit un peu partout, donc je peux les envoyer au cas où. Et sinon, donc c'est un peu plus cher. Ou sinon, pour trouver des entrepreneurs locaux, généralement, je sympathise pas mal avec les agents immobiliers, etc. Et ils m'ouvrent un peu leur réseau pour faire des travaux.
OK, ça marche. Et donc, aujourd'hui, ça représente quoi ton parc en nombre de biens et comment tu les gères au quotidien?
Ouais, donc aujourd'hui, j'ai plus de 15 biens. Et en plus de ça, j'ai un immeuble. Donc un immeuble de bureau qui a la même valeur, voire qui est un peu plus, c'est mon plus gros patrimoine. Et en plus de mes cette business, et comment je gère ça? Il y en a une partie où c'est délégué, donc délégué à des agences, où je suis content mais pas forcément très content, et il y a une partie dont je m'occupe toujours tout seul.
OK. Et donc là, si tu devais recommander à quelqu'un de se lancer, tu lui dirais gérer tout seul, mettre en agence? Enfin, c'est quoi il y a une méthode gagnante ou c'est un peu fonction des locataires, c'est vachement variable.
Ouais, c'est moi je dirais que c'est ça. C'est alors déjà un bien, je pense qu'au début je le mettrais jamais en agence directement, sauf si tu trouves une agence, une pépite. Alors à partir d'un certain moment, il y a pas mal de personnes à mon niveau qui font, c'est qu'ils prennent un ancien agent immobilier et leur donnent tous leurs biens à gérer. Tu peux faire ça aussi s'ils sont à peu près au même endroit. Là, en fait, la problématique, c'est généralement quand vous finissez les travaux dans un appartement, il va y avoir énormément de dégâts. Et du coup, vaut mieux absorber, vous, les dégâts du début. Donc, les dégâts, ça va être dégâts des eaux, ça va être petite problématique avec je sais pas quoi, une fenêtre qui ferme pas parce qu'il y a trop de peinture ou quoi que ce soit. Donc, vaut mieux gérer soi-même les locations au début pour s'assurer que ça démarre. Après, en fonction de ce que vous faites, si vous avez, par exemple, des studios, si vous avez des deux pièces, si vous avez une maison, si vous avez des colocations, ça ne gère pas de la même manière. Par exemple, encore aujourd'hui, les agences sont pas optimum pour gérer des colocations. Donc, ça vaut mieux que vous le fassiez vous-même. Et après, en fonction de l'endroit où c'est, il y a quand même des gros points noirs avec les agences. C'est en fait le niveau qu'il faut pour pouvoir louer un de vos biens. En gros, si les agences respectent réellement les règles qu'elles s'imposent elles-mêmes d'ailleurs pour louer des biens, il faut gagner trois fois le loyer. Et du coup, ça va vous enlever énormément de profils qui sont en fait des personnes qui sont très bien. Par exemple, moi, il y a plein de moments. Enfin, on m'aurait demandé trois fois mon salaire pour pouvoir payer un loyer. J'aurais pas pu louer des trucs. Donc, en fait, il faut regarder quoi.
Et tu utilises un tool aujourd'hui pour suivre ce que tu gères en direct pour toute la partie facture, loyer impayé, changement de locataire, les baux, toutes ces parties vraiment purement administratives.
Ouais, alors j'utilise plusieurs choses. Je l'ai vu d'ailleurs passer. Il y a une partie, j'utilise rendement locatif, mais c'est pour faire les baux de location. Sinon, j'ai mes propres outils à moi que j'ai fait. Donc, où effectivement, tu as des envois automatiques et je fais des rapprochements bancaires avec des systèmes qui existent en place. Et après, ça dépend où sont mes biens, où ils sont encapsulés. Donc, soit je les ai en propre, soit dans les entreprises. Donc, après, ça dépend où ils sont. Et s'ils sont dans les entreprises, là, ils rentrent dans la compta de l'entreprise. Donc, là, il y a un expert comptable, il y a tout le système qui suit.
Ça marche. D'ailleurs, je vois des gens qui parlent de la défisc, enfin de l'immobilier défiscalisant. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais ?
Alors, moi, j'en fais pas. Donc, en gros, le consensus un petit peu dessus, c'est que la défisc, c'est bullshit, oui, dans la plupart des cas. Donc, pourquoi ? En fait, il faut comprendre qui gagne de l'argent et où par l'argent. En gros, vous achetez un bien, je ne sais pas, 100 000. En fait, déjà, vous achetez une voiture neuve. Donc, une voiture neuve, c'est 40 à 50% trop cher pour ce que c'est, parce que vous achetez la même voiture un tout petit 6 mois plus tard, elle vous revient 50% moins cher. Donc déjà, quand vous faites du neuf en immobilier, généralement, où sont les Pinel ? Ce qui fait la valeur d'un bien, il y a effectivement la date de construction de l'immeuble, mais généralement, c'est l'emplacement. Du coup, quand vous faites un Pinel, ils vont vous faire du neuf dans des endroits où potentiellement, il y a une tension locative, mais on ne sait pas. Et généralement, c'est des endroits où le prix du foncier est peu cher, etc., etc. Donc bref, vous achetez quelque chose qui est trop cher et vous l'achetez au prix du neuf. Déjà, vous l'achetez très cher. Et après, en fait, généralement, les Pinel, pourquoi c'est un marché qui est vraiment dynamique ? Parce qu'il y a beaucoup de commissions à prendre pour des intermédiaires. Donc, que ce soit votre banque, que ce soit vos conseillers en gestion de patrimoine, etc. Et en gros, ils vont prendre, grosso modo, vous achetez un truc à 100 000. Je vous sors des chiffres un peu comme ça, mais ils vont prendre entre 10 et 20 000 euros. Ce sera des coms pour des intermédiaires. Donc, c'est pour ça que votre banque, elle va vous pousser à prendre ça. Parce que ça va faire le petit bonus de votre banquier qui gère 500 personnes en même temps, quoi.
OK. Donc, pas forcément, pas intéressant pour toi. Ça marche. Et donc, sur la troisième partie, c'était les side business. Ça, c'est… Ouais, vas-y, explique-nous un peu ce que tu fais à ce niveau-là.
Ouais, du coup, il y a un moment, en fait, ça dépend quels sont vos objectifs. Donc, si aujourd'hui, vous gagnez très bien votre vie ne serait-ce qu'en faisant la bourse ou même en faisant de l'immobilier papier, parce que ça peut être intéressant si vous gagnez très bien votre vie, que vous n'avez pas besoin de renta assez importante, vous pouvez atteindre, en fait, ça dépend quelle est l'échéance que vous donnez, vous pouvez atteindre l'indépendance, je ne sais pas, en 5, 10, 20 ans. Et moi, en ce qui me concerne, en fait, par rapport à ce que je gagnais, je m'étais fixé des objectifs d'indépendance assez élevés. Et du coup, il y a un moment… la bourse, je faisais ce que je pouvais, donc j'épargnais, j'investissais. L'immobilier, je continuais, mais je me retrouvais bloqué pour une capacité d'endettement. Et du coup, je me suis dit, OK, comment faire des prochaines opérations les plus grosses ? Et du coup, là, j'ai lancé des business. Alors, j'ai à peu près tout fait. Je pense que ce qui me qualifie, c'est un peu de me marrer en faisant mes trucs, tu vois. Donc, j'aurais peut-être dû faire un seul truc. Mais du coup, j'ai lancé des business un peu en mode startup, ce qu'on peut voir aujourd'hui. Alors, la différence, bref, ce qu'est un side business, c'est quoi ? C'est vous lancez un business qui est automatisé ou délégué et qui vous rapporte de l'argent tous les mois et qui, normalement, n'a pas pour objectif de devenir une entreprise qui fait des millions, quoi.
Mmh. Et donc là, en ce moment, t'en as qui tournent ?
Ouais, donc là, j'en ai pas mal. Donc, j'en ai plein de petits. Donc là, c'est des business plutôt SEO, donc positionné avec du référencement Google. Donc, j'en ai plein de petits qui font entre 0 pour ceux qui ne marchent pas jusqu'à 2500 euros par mois. Stable, plutôt 1000 euros. Cela, il y a par exemple du consulting de psy en ligne, il y a une agence de design thinking, il y a de l'accompagnement de certification d'organisme de formation. En gros, j'ai plein de niches un peu comme ça que j'ai creusées ou j'ai fait des trucs dessus. Sinon, dans mes gros sites business, j'ai un espace de coworking à Paris. Alors, je ne le mets pas en immobilier parce que c'est pour moi réellement un business, donc c'est de la sous-loc. Donc là, c'est 250 000 euros de chiffre d'affaires par an, c'est 40 000 euros de marge, hors Covid.
Ça repart là d'ailleurs pour toi.
Ouais, là ça repart pas mal, donc c'est bien. Par contre, on va voir ce qui se passe en septembre. Et là, on est dans les mois creux parce que c'est les mois d'activité. Alors, parce que dans mon espace de coworking, il y a location de bureau, mais aussi location de salle de formation. Et les salles de formation, juillet, août, il n'y a jamais de formation. Enfin, pas beaucoup.
OK. Donc, les trois piliers. Et c'est quoi les 8000 euros par mois, ils viennent d'où? C'est écuyer réparti. C'est quoi les grandes quantités?
Ouais. Alors, j'ai jamais consommé la bourse, donc je la mets même pas dans mes calculs, alors que c'est assez conséquent.
C'est-à-dire que tu réinvestis les dividendes que tu touches, ils sont automatiquement réinvestis. Peut-être que tu prends que des ETF qui accumulent les dividendes.
C'est ça, vraiment. Okay, donc... Et je les sors pas parce que j'en ai pas besoin et en plus j'ai pas atteint. Mais en fait, fiscalement, ce serait pas terrible pour moi.
Ouais, t'as pas atteint la date des les 5 ans ou les 8 ans pour les assurances vie.
Exactement. Donc là, si je les sors dans pas longtemps, c'est parce que je m'achète ma résidence principale et je vais les utiliser peut-être en apport, mais il faut faire attention parce que quand vous faites ça, vous comprenez vite qu'en fait, les montants investis et même votre patrimoine net augmente très vite. Et du coup, il y a quand même un truc qui s'appelle l'IFI en France, qui est quand même pas très élevé et d'ailleurs qui ne double pas si vous vous mariez. Donc, n'oubliez pas que si vous avez un beau patrimoine, que votre conjointe a un beau patrimoine et votre conjoint et que vous vous mariez, l'IFI ne bouge pas, mais vos patrimoines sont ajoutés. Donc, pour ceux qui pensent que ça peut être mieux.
Un petit cadeau dans la corbeille, peut-être.
Exactement. Donc, pour le salaire, ça peut être intéressant, mais pour le patrimoine, ça ne marche pas. Donc, faut faire attention quand vous sortez de l'argent, vous le réinjectez dans l'IMO, parce que l'IFI, c'est sur l'IMO. Bref, du coup, moi, rien qu'avec l'immobilier, je l'avais. Rien qu'avec les sales business, je l'avais. Et dans les moments où ça marchait très bien pour moi, j'étais des revenus très, très conséquents.
Ça marche. Et donc, IMO, d'ailleurs, tu disais que tu avais fait une SCI assez rapidement, donc aujourd'hui tu es full SCI ou tu as aussi du LMNP en partie?
Ouais, alors là ça dépend de. Alors moi j'avais une stratégie justement, d'où le titre de ce soir. Moi j'étais là, ok, à 30 ans, max 33, j'aurais atteint mon espérance, ce qui fait qu'à partir de 30 ans je ne vis que de ça. Et du coup, quand vous faites une stratégie comme ça, il faut être très agressif sur les impôts. Alors, en fait, généralement, quand on commence à faire l'investissement immobilier et ce qu'on veut faire de façon générale, on va prendre un modèle d'impôt, on paiera des impôts plus tard, ce qui est normal. Quoi qu'il arrive, en fait, vous allez payer quasiment les mêmes impôts, à part 2-3 trucs près. Et grosso modo, moi, quand j'ai commencé, c'est pour ça que je me suis structuré avec SCI à l'IR déjà. Donc, je ne me protégeais pas des impôts, donc je payais beaucoup d'impôts au début, mais parce que je savais que très tôt, en fait, j'allais me dire, OK, ça, je vais vivre de ces revenus-là. Ça change. Si vous décalez de 10 ans, ma stratégie n'est pas bonne. Donc, il faut plutôt potentiellement faire une SCI à l'IS pour se protéger, etc., etc. Bref, donc moi, j'ai du LMNP, j'ai de l'allocation nue, j'ai achat entreprise et j'ai achat SCI.
Ça marche. Et donc là, je pense que la plupart des gens qui nous regardent n'ont pas encore fait ce cheminement ou peut-être entamé le cheminement. Donc là, si tu devais partir à zéro, c'est quoi la première étape? C'est comment tu définis ce fameux chiffre de... Comment tu tombes en fait sur ce chiffre mensuel et pourquoi c'est un revenu mensuel qui est un bon indicateur pour l'indépendance financière? Et d'ailleurs, comment tu peux aussi t'assurer que si tu dépenses 8 000 ou 4 000 ou 10 000 par mois, tu ne vas pas au bout d'un an te retrouver en fait à zéro?
Alors, je pense que le premier exercice, qui est un exercice qui est peut-être un peu dur pour pas mal d'entre nous, après ceux qui sont passés un peu par les banques, c'est un peu plus simple. C'est vraiment de faire un BP de sa vie en se disant, OK, moi, la vie que je veux, donc déjà savoir à peu près la vie qu'on veut. Et une fois qu'on sait ça, ce qui est très, très dur, très, très, très dur, une fois que vous savez ce que vous voulez, de vous dire, OK, moi, je veux vivre à Paris ou à Marseille. Choisissez peut-être des choses qui coûtent un peu plus cher, donc pour avoir plus de marge. Bon, vous voulez vivre à Paris, vous voulez avoir 2 enfants, vous voulez habiter dans tel quartier, vous voulez avoir un appartement de telle taille et vous calculez combien ça coûte. Faites tout ça. Vous vérifiez juste à votre départ à la retraite et si vous avez des soucis de santé en fin de vie, si ça, c'est à peu près aligné. Parce que si vous partez sur des revenus, enfin des montants très bas, potentiellement à la fin, ce sera plus. Une fois que vous avez fait ces calculs-là, en fait, vous faites votre budget, donc prévisionnel, Donc, tous les mois, voilà combien ça va coûter, donc les enfants, etc., etc., etc. Et vous arrivez à un montant. Et après ce montant-là, soit vous êtes avec quelqu'un, soit vous faites vous-même le FIRE totalement et vous divisez par deux ou vous le faites vous-même. Et là, vous avez votre montant de ce qu'il vous faut tous les mois. Une fois que vous avez ça, il y a une règle qui est assez simple, qui est largement critiquable, mais qui est quand même pas mal parce que ça permet de fixer un objectif de patrimoine. C'est la règle des 4%. Donc, en gros, c'est de vous demander si vous investissez de l'argent principalement en bourse ou dans side business ou asset, etc. Si vous investissez de l'argent et que cet argent vous rapporte 4% net, combien il faut avoir de patrimoine investi? Et en gros, cette règle, elle est assez simple parce que 4%, du coup, ça fait un quart. Du coup, ça fait multiplié par 25. Donc, en gros, vous prenez, par exemple, on va faire 3000 euros. Vous faites 3000 euros. Vous faites 3000 euros fois 12, ça fait 36 000 euros annuels. Et là, vous multipliez par 25, ça fait 900 000 euros. Donc, vous savez qu'il vous faut, si vous faites que la bourse, 900 000 euros placés en bourse à 4% net. Si c'est autre chose. Et après, vous jonglez. Vous faites, OK, je vais faire un peu d'immobilier. Vous allez chercher peut-être 12% de renta et réussir à avoir 4% net. Vous allez chercher des side business qui vont apporter 500, 1000, 2000 euros par mois et vous avez la bourse que vous continuez à faire.
OK. D'ailleurs, dans le chiffre des 4%, il y a une étude qui est assez intéressante qui s'appelle la Trinity Study qui est, je pense, son grand défaut, c'est qu'elle est très vieille. Il y a eu pas mal de nouvelles études, mais bon, en gros, que ça soit 3,5 ou 4, ça reste quand même assez robuste. Par contre, ce qu'il faut dire aussi, c'est que pour tenir ton niveau de dépense, il faut que tu vendes ton capital. En fait, tu vas pas vivre uniquement de tes revenus, ou non, tu vas aussi vendre tous les mois des actions ou tous les ans, peu importe. Tu vas devoir vendre du capital pour couvrir ton coût de la vie.
C'est exactement ce que tu dis. En fait, il y a une tendance et c'est un truc qui est assez dur en fait quand on arrête de construire du patrimoine et qu'on commence à vivre de son patrimoine. D'où mon post sur LinkedIn, tu vois. C'est en gros, disons que vous arrivez là, vous avez 900 000 euros. Donc chaque année, ça va croître de 8%. Mais en fait, chaque année, vous allez vendre ces 8 ou 6% supplémentaires pour vivre de 4% après impôt. Bon, en gros, c'est ça. Donc vous vendez effectivement, si vous avez des ETF qui sont avec capitalisation, vous allez les vendre, etc. Mais lorsque vous faites ça, bon, déjà, vous vous rendez compte que vos 900 000 euros, du coup, ça grossit plus parce que généralement, vous stagnez. Et après, effectivement, les problèmes en fait de la règle de 4%, le premier problème, c'est si vous partez à la retraite, que vous êtes juste, donc vous avez vraiment besoin de 3000 euros tous les mois parce que vous êtes en couple, voilà, budget, enfant, etc. Vous partez, il y a un crash dans l'année suivante. Bah là, c'est franchement compliqué parce que vos 900 000 euros, disons qu'il y a un crash de 50%. Vous vous retrouvez avec 450 000. Donc bon, et là, en fait, vous êtes obligé de consommer ce capital-là. Et du coup, en consommant…
Vous devez consommer deux fois plus en plus, du coup, par rapport au montant prévu, enfin, en pourcentage, du coup.
Exactement. Donc là, vous attaquez vraiment votre capital, un truc de dingue. Bon, après, il y a d'autres choses, on peut en parler, il y a l'inflation, tout ça, etc. Donc, effectivement, la règle des 4%, déjà, ça peut donner un chiffre estimatif. Après, il y a pas mal de personnes en FIRE aujourd'hui en France qui mettent plutôt du 3%. C'est juste que ça rajoute le montant. Et après, votre jeu, c'est de comprendre comment y arriver, quoi.
Ça marche. Dernière question de ma part, après on va passer aux questions des auditeurs. Justement, le FIRE en France, c'est quoi les spécificités? Parce que le FIRE, c'est quand même quelque chose qui vient des États-Unis. Aux États-Unis, bon, la retraite, c'est un concept qui n'existe pas trop. Il y a la sécurité, je crois qu'il y a les Américains ont une sécurité sociale très, très réduite à partir de 65 ans, mais bon, c'est quelque chose que les FIRE prennent en compte. Donc eux, ils sont vraiment dépendants à 100% de leurs économies. En France, on a quand même la retraite à partir de 62 ans. Il y a quand même plein de choses. Il y a la santé qui est moins chère. Du coup, c'est quoi les spécificités du FIRE en France? Est-ce que c'est plus simple de le faire? Est-ce que c'est plus compliqué? Il y a aussi la taxe Puma, par exemple. Est-ce que ça, c'est un truc que tu prends en compte?
Ouais. Du coup, pour taxe Puma, on peut l'éviter assez facilement. Et après, il faut voir si tu as envie de l'éviter ou pas. Mais en gros, tu te verses un salaire et tu peux éviter la taxe Puma.
Donc, juste la taxe Puma, c'est la taxe pour les rentiers, en fait. On taxe les gens qui n'ont que des revenus du capital. On taxe plus.
Ouais. Et du coup, pour truquer la taxe Puma, il suffit que tu aies une SAS et que tu te salaries. Et du coup, tu as un autre revenu. Et enfin, il y a un montant minimum de salaire, mais c'est très bas, hein, que tu vas te verser. C'est de l'ordre de 1000 euros. Du coup, en te versant ça, tu évites la taxe Puma. Après, la France... bon, c'est un des pays où il y a le plus de prélèvements sociaux. Donc, si on regarde, je crois que c'est 44% du PIB français, c'est des prélèvements sociaux. C'est énorme. En fait, si on regarde tous les prélèvements sociaux, donc il y a quand même cette partie-là où il y a beaucoup d'impôts, beaucoup de prélèvements sociaux. Après, la France, c'est un peu, il y a quand même l'aspect, finalement, bon, déjà, il y a le chômage. Après, il y a l'aspect, Zut, il y a l'aspect, je me suis perdu dans ce que je voulais dire, il y a l'aspect emprunt, donc où on peut vraiment emprunter. Donc en fait, finalement, c'est juste une façon différente de le faire. Sachant qu'aujourd'hui, comme ce que tu disais, les États-Unis, effectivement, pourquoi c'est vraiment problématique quand les marchés boursiers américains surtout chutent? Parce que c'est toutes les retraites des Américains, donc il y a des gens qui peuvent se retrouver ruinés. Nous, aujourd'hui, on est quand même en train de changer un peu notre système par répartition. Pourquoi? Parce que grosso modo, on n'est pas assez à cotiser dès aujourd'hui et ça s'empire. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de jeunes travailleurs pour financer les actifs. Et en plus, les jeunes travailleurs aujourd'hui ne gagnent pas forcément autant que ce qu'on aurait pu espérer pour financer des actifs qu'on très bien gagné. Du coup, il y a plusieurs problèmes qui arrivent. Bref, tout ça pour dire qu'en France, on est quand même en train de bouger cette retraite par répartition vers une retraite par capitalisation, surtout pour les plus hauts revenus. Et du coup, il y a de plus en plus de produits qui arrivent sur le marché qui permettent finalement, en évitant l'impôt ou en mettant l'impôt à plus tard, d'investir en bourse. Donc déjà, la bourse, ça commence à devenir de mieux en mieux en France pour faire ça. Et après,
il y a... Quand retraite. C'est quand il parle de retraite.
Ouais, loi Pacte, faite par Bruno Le Maire, et enfin un peu pilotée par Bruno Le Maire, et dedans, il y a tout ce qui est PER, donc plan épargne retraite, où il y a plusieurs choses qui sont de plus en plus intéressantes. Et même... tout ce qui est participation en termes d'action, en termes de dons d'action quand vous rejoignez une entreprise, tout ça, la fiscalité est en train d'être allégée. Donc, on est en train d'évoluer vers ça. Donc, non seulement, effectivement, on est en train d'enlever un peu de retraite par répartition, mais à côté, on essaie de fournir aux personnes des moyens de faire leur propre retraite. Donc, ça, ça évolue et vraiment dans le sens américain. Donc, ça, ça arrive. Et du coup, bah, en fait, il y a finalement, il y a quelques éléments qui changent. Le plus gros problème, c'est que quand on est salarié aujourd'hui, vous gagnez 3 000 euros, vous coûtez 6 000 euros à l'entreprise. Et en gros, c'est 3 000 euros supplémentaires. Vous avez de grandes chances de les toucher aux États-Unis pour les investir en bourse. En France, vous ne les toucherez pas. Donc, ce qui fait que le système only bourse marche beaucoup mieux quand vous êtes à la Silicon Valley, que vous habitez dans votre van parce que ça coûte trop cher, on n'a pas le taux d'avoir une maison, tu vois, et que vous pouvez beaucoup épargner, quoi.
Ça marche. On va passer aux questions. Donc, n'hésitez pas à poser les vôtres ou la vôtre dans la section correspondante. Je vais commencer par les questions qui ont été posées sur notre communauté, dont on va poster un lien dans le chat. Première question, on a couvert pas mal de choses. Je pense que le FIRE, c'est un peu un rabbit hole. Donc, une fois que tu descends dedans, tu peux t'y perdre. Du coup, si tu avais un seul conseil, ou si tu devais donner qu'un seul conseil à des gens qui débutent, ce serait lequel ?
Pour moi, c'est de trouver quelqu'un qui est déjà FIRE un peu avancé, et de lui demander comment faire et d'être accompagné. Et après, chaque semaine, en fait, c'est vraiment, il y a encore cette notion de mindset, c'est il faut vraiment changer d'état d'esprit et être avec des gens qui pensent comme ça, parce que sinon, on se retrouve trop dans la masse qui ne pense pas pareil. Donc, trouver quelqu'un qui a déjà fait et après avoir un petit groupe de travail pour avec les mêmes objectifs. Donc, quelqu'un qui est très avancé, après un groupe de travail où vous êtes quatre à vouloir acheter un bien immobilier ou faire vos premiers investissements en bourse.
D'ailleurs, toi, dans le FIRE, il y a quand même cette notion d'arrêter de travailler. Enfin, c'était le titre de l'événement, c'est partir à la retraite. C'était un peu provocateur parce que finalement, toi, tu n'es pas à la retraite. Aujourd'hui, tu continues de travailler. Toi, c'est ton objectif, c'était de toucher un revenu et d'arrêter de travailler ou c'était simplement d'assurer tes arrières financièrement?
Moi, c'était vraiment de me dire, aujourd'hui, l'argent, c'est plus un problème. Donc, l'argent, c'est plus un problème pour les projets. Alors, faut faire attention parce que dès qu'on met les projets qu'on veut réaliser, ça dépend quels sont les projets. Donc, demain, tu veux changer le monde. Là, il faut beaucoup d'argent, je pense. Enfin, ça dépend. Mais donc, bref. Donc, en gros, moi, c'était vraiment de me dire à un moment, OK, c'est bon, demain, j'ai des enfants, ils sont en bas âge, j'ai envie de faire deux fois le tour du monde. Ça me ressemble pas du tout, mais OK, j'y vais. Et après, ça dépend des personnalités de chacun. Il y a des personnes qui s'arrêteront, mais la plupart continuent à faire des projets. Et moi, ce qui m'épanouit et ce qui est un peu mon développement personnel perso, c'est de continuer à travailler sur des projets avec des gens et travailler dans des boîtes ou travailler sur des éléments, des startups ou autres. Donc ça, j'arrêterai pas. Pourquoi ? Parce que sinon, pour moi, ce serait signe. Moi, tout seul dans mon coin, je pense pas être capable de continuer à évoluer et de dépasser mes prochains blocages. Donc j'ai besoin de continuer à faire des projets.
Ça marche. Prochaine question, c'est quoi ton meilleur investissement et c'est quoi ton pire investissement ?
Alors, je vais vous passer genre les bullshit, genre mon meilleur investissement, c'est en moi-même. mon meilleur
investissement. Ouais.
Mon meilleur investissement. Ah oui, bah si, mon meilleur investissement. Alors, le problème, c'est que je vais pointer quelque chose qui n'est absolument pas révélateur de ce qu'on doit faire. Donc, en gros, ça m'est arrivé dans ma vie d'investir dans une startup et de me retrouver avec un investissement qui a énormément bien marché. Mais la probabilité que ça fonctionne, je pense, est aussi élevée. En tout cas, dans mon cas, était aussi élevée que jouer au loto, quoi. Donc, bon, on va peut-être passer ça. Du coup, mon meilleur investissement, ça doit être directement le premier appart que j'ai fait. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a plein d'erreurs, mais au moins, j'ai appris plein de trucs. Et finalement, d'un point de vue patrimonial, il a pris tellement de valeur que ouais, c'est devenu hyper conséquent. En plus, là, j'ai remboursé, donc ça m'a beaucoup aidé à avancer. Le pire investissement... J'ai investi dans plein de trucs, j'ai perdu plein d'argent dans plein de trucs. Donc, Alors, quand on devient FIRE, on investit même dans les produits qu'on consomme tous les jours. Et moi, à chaque fois que je vais à la FNAC, j'ai envie d'acheter plein de bouquins, je ne le dis jamais. Donc, mon pire investissement, ça va sûrement être un de ces bouquins ou un objet, tu vois. En face de moi, j'ai un extracteur de vue, là. Si je le réutilise pas, tu vois, j'utilisais beaucoup pendant 2 ans. Si je le réutilise pas, c'est un mauvais investissement.
Ça marche, l'extracteur. Bon, ça va, c'est pas les conséquences financières sont gérables.
Ouais, les autres, dans là où j'ai perdu beaucoup d'argent, des travaux.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis que tu fais beaucoup d'investissements et que finalement, ça, je trouve que c'est très américain aussi, c'est de dire que l'erreur fait partie de l'apprentissage et que c'est impossible de que faire des. Que faire des home runs et d'enchaîner les bons investissements et de monter à 10 millions en ligne droite. On va forcément se prendre des gamelles en fait à un moment.
Ouais, je suis d'accord. En fait, c'est peut-être que ça existe hein, parce qu'il y a toujours des. Mais en fait, ça n'existe pas. Tu vois, par exemple, j'avais fait un post sur LinkedIn en disant que il y a un des membres du groupe FIRE qui était à 3 millions d'Ethereum, il est descendu à 1,5 million et un des commentaires a été « Victor, ça sert à quoi de rejoindre le groupe FIRE si il y a des performances aussi exécrables ?» Bah, moi, la réponse, c'est malheureusement, dans FIRE, vous êtes seul. Déjà, dans votre vie, vous êtes seul. Dans FIRE, vous êtes encore plus seul. Et il y a un moment, vous êtes malheureusement, il y a des choses que vous ne voyez pas. Vous êtes obligé de vous prendre des gamelles pour avancer. Et vous allez vous prendre des gamelles à la hauteur de où vous en êtes aujourd'hui. Donc, moi, ma prochaine gamelle, ce sera peut-être une gamelle avec beaucoup, beaucoup de zéros derrière. Et tant pis, j'avais juste besoin de sentir ça parce que je m'étais trompé ou j'avais pris trop de risques, etc.
Ça marche. Next question. Dans ton livre, tu parles de seuil de liberté financière. C'est quoi les différents seuils? Tu en as parlé tout à l'heure parce que tu disais que tu avais atteint le premier seuil à 30 ans.
Ouais, alors moi, dans mes définitions, mon premier seuil, c'était 4 000 euros par mois. C'est ce que je consommais tous les mois avec impôts. Et du coup, avec une vie confortable, mais sans enfants. Et du coup, c'est donc en gros à Paris, c'est un loyer ou remboursement d'un appartement entre 1500. En gros, votre appart vous coûte 2 000 euros par mois et vous avez le reste, c'est ce qu'il vous faut pour vivre. Et du coup, moi, c'était ça mon premier seuil. Après, en fonction de là où vous habitez, etc., tout peut changer. Donc, encore une fois, vous allez à Palo Alto, votre premier seuil sera 10 000 euros par mois. Les mecs à 170 000 dollars par an, ils ne s'en sortent pas, quoi. Ils n'arrivent même pas
à. Oui, c'est le bas de l'échelle, ouais.
Du coup, c'est ça. Et après, deuxième seuil, deuxième seuil, c'est quand vous commencez à vous projeter en vous disant, est-ce que la vie que vous vivez aujourd'hui, c'est ce qui va vous coûter le plus cher? Et moi, en l'occurrence, ce n'était pas ça, donc d'où les 8 000 euros. Donc là, on rajoute deux salaires et finalement, donc pour m'accompagner moi et 2 enfants à Paris.
Ça marche. D'ailleurs, peut-être précision sur ton FIRE à toi. Toi, tu es un adepte du Fat FIRE, c'est ça? Et le Fat FIRE, c'est de dire qu'en fait tu veux être indépendant financièrement, mais tu veux vivre dans une vie qui coûte cher, tu veux continuer à aller au resto et tu veux pas être en train de compter les, tu vas pas regarder les promos pour aller faire tes courses, tu veux avoir une vie qui est quand même un niveau de vie qui reste quand même conséquent.
C'est ça. Si on se met sur l'échelle, je suis tombé sur un forum sur l'échelle américaine, dans l'échelle américaine je suis même pas dans le Fat FIRE dans l'échelle américaine
parce que t'es trop bas en fait
ou... Je suis trop bas. Donc, dans l'échelle, donc c'est exactement ça. Moi, j'adore le resto, devenir pote avec tous ceux qui gèrent des restos autour. Si j'ai envie de partir quelque part, je veux le faire. Si je veux mettre mes enfants dans des écoles privées, je peux le faire. Donc, en fait, c'est un montant qui est assez conséquent. Pour tous ceux qui habitent Paris ou autre grosse ville, en fait, c'est pas vraiment délirant quand on regarde les coûts qui sont associés. Et après, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est surtout en France, plus vos revenus montent, plus l'imposition est quand même assez forte. Donc, en fait, c'est vous clair. Avez comme ça en face.
C'est clair. Prochaine question, tu travailles combien d'heures par semaine?
Alors, ça dépend. Là, aujourd'hui...
Pas de réponse du type « je ne travaille pas puisque je fais quelque chose qui me plaît ». Enfin, On travaille pas une heure.
Ouais, non. Il y a un de mes potes du BCG qui m'a beaucoup aidé, donc un cabinet de conseil, et il m'a dit, parce que je me plaignais d'un taf que j'avais, il m'a dit, mais Victor, est-ce que dans ton taf, tu as 60%, est-ce que les 60% que tu fais, c'est dur et t'aimes pas? Je lui ai dit oui. Il m'a dit, mais est-ce que les 40% restants, finalement, tu arrives un peu à t'épanouir, ou au moins ça te fait marrer, ça te fait kiffer? Je lui ai dit oui. Il m'a dit, bah alors c'est un taf parfait. Bah, c'est exactement ça. aujourd'hui, c'est pareil, parce que je pense que, en tout cas, ça dépend de quels sont vos objectifs. Moi, mes objectifs, c'est commencer de continuer à voir ce que j'ai pas compris dans la vie, de continuer à avancer. Et du coup, quand vous faites ça, vous sortez de votre zone de confort à 50% du temps. Donc 50% du temps, vous n'êtes pas au top. Hein. Je sais pas, vous n'êtes pas habitué à aller à tel endroit, vous devez plutôt prendre une douche froide, peu importe. Mais en gros, vous êtes en difficulté. Donc moi, aujourd'hui, la seule contrainte que je m'impose, c'est de travailler le matin et pas l'après-midi. L'après-midi, je fais ce que je veux. Donc c'est pour ça que sur Instagram, des potes m'envoient des traits chaleureux branleurs l'après-midi quand je fais du squash. Et donc je bosse le matin et après, en fonction des projets, s'il y a des charges sur des éléments, je bosse un peu plus. Et du coup, ça peut m'arriver. Après, ça dépend ce qu'on appelle le travail, mais le week-end dernier, par exemple, j'ai fait 3 fois le tour de Roi Merlin IKEA parce que j'ai besoin de renouveler mon fameux fichier Excel, quoi.
Ça marche. Dernière question de la communauté. Après, on passera aux questions qui ont été posées aujourd'hui. Comment tu fais pour équilibrer entre continuer à investir et finalement développer ton capital et vivre de tes rentes et profiter du travail que tu as déjà accompli? Comment tu fais pour équilibrer ça mentalement?
C'est hyper galère. Et en fait, là, moi, je suis à un moment où quand vous commencez à consommer du capital potentiel, c'est hyper frustrant. Et quand vous dites que vous arrêtez, par exemple, vos 7 business, donc vous arrêtez de créer des business supplémentaires qui génèrent de l'argent, c'est hyper frustrant. Parce que, en fait, c'est un peu comme la vieillesse, quoi. Comme la paire de cheveux, quoi. Vous stabilisez et en fait, c'est assez dur, ce passage-là. Du coup, je ne suis pas un bon exemple. Donc, je continue à faire des trucs qui gagnent de l'argent, à continuer à avancer. J'ai du mal avec ça. Et je pense que beaucoup de faillants ont beaucoup de mal avec ça.
Ça marche. On va passer aux questions dans le chat. Comment as-tu trouvé les idées de tes side business?
Alors, la plupart de mes side business, les idées sont venues d'endroits où je travaillais. Donc, par exemple, le coworking de Paris, j'étais dans l'espace de Google au Kenya, à Nairobi, et c'était un coworking. Et moi, je trouvais ça génial. Je suis revenu en France, j'ai vu qu'il en existait deux. Je me suis dit, OK, on va lancer un. Donc, parce que je l'ai vécu, non seulement en tant que client, je l'ai expérimenté. Par exemple, sur les organismes de formation, j'ai plusieurs organismes de formation. Du coup, j'ai vu qu'il y avait un enjeu autour de la certification. Et du coup, je me suis dit, OK, il y a un besoin. Et les acteurs sur le secteur ne me parlent pas, donc il faut le créer. Et du coup, le mieux, c'est quand même du vécu, du personnel, et en fait très vite quand même de se planter, quoi. Voilà, moi, ma première boîte plantée, c'est quand j'avais, je sais pas, 18 ans, quoi. Donc très vite, il faut se lancer dans le truc et se rendre compte que en fait c'est l'apprentissage. L'apprentissage est dur, l'apprentissage coûte beaucoup, mais il faut le faire beaucoup, et après faut tenir. Bon, faut se maintenir, quoi.
Persévérer, ouais. Est-ce que tu recommandes d'utiliser je suis désolé, je te bombarde de questions. Ouais. Est-ce que tu recommandes d'utiliser un prêt personnel pour investir dans des choses comme le crowdfunding ou la SCPI et aller chercher des rendements, faire de l'arbitrage de taux en gros finalement et dire le rendement est largement supérieur à mon taux et voilà. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes?
Alors, ça dépend vraiment de. Déjà, généralement, les personnes qui font ça, c'est un peu ça la problématique, c'est des personnes qui sont plutôt jeunes, qui voient de l'opportunité et qui ont une aversion au risque très faible et du coup, ils y vont. En fait, le gros truc, de base, non, je ne le recommanderais pas, mais ça dépend où vous en êtes. Si aujourd'hui, vous êtes capable d'économiser beaucoup tous les mois, que vous maîtrisez, du coup, vous êtes bien d'un point de vue financier et que le montant que vous empruntez, finalement, ce n'est pas déconnant par rapport à ce que vous pouvez rembourser, que vous, le risque, ça ne vous fait pas peur et physiquement, ça ne vous impacte pas et ça ne va pas vous stresser, franchement, moi, je me dis, même sur du Bitcoin, hyper volatile, moi, je me dis, pourquoi pas? Je me dis, pourquoi pas, allez-y, mais par contre, il faut rester maître de ce que vous pouvez faire. Ne faites pas comme pléthore d'Américains, il y a énormément de Français qui ont fait ça, des crédits à la conso, j'aimerais bien voir les chiffres, et qui ont tout mis sur du Bitcoin, et qui là, maintenant, se retrouvent à rembourser des crédits, alors que le Bitcoin a fait moins 40%, quoi, ou moins 30%. Du coup, en fait, ça dépend de votre aversion au risque, et ça dépend de ce que vous voulez faire. De base, si vous commencez vraiment aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit une bonne chose à faire.
Très clair. Nicolas, d'Avenue des investisseurs que je salue, demande, indique que tu génères 8 000 euros de revenus nets par mois. Mais du coup, t'as combien d'emprunts à rembourser en face? T'as combien de c'est quoi les mensualités que tu dois couvrir tous les mois?
Alors, en vrai, je ne sais pas. Grosso modo, c'est des. Alors, je crois qu'il me suit sur Instagram aussi. Il suit tous mes trucs. Il me pose des questions. Je suis à beaucoup d'emprunts. Donc, ça se compte en millions. Et en patrimoine net, j'ai un patrimoine net assez conséquent en face. En réalité, je me verse. Alors, il y a juste une sonnerie chez moi. Je pourrais me verser beaucoup plus.
Ça marche, ça marche. Justement, tu parlais des emprunts. Comment tu fais pour bypasser, je sais pas si c'est le bon terme, comment tu fais finalement pour aller plus loin que la limite des 35%? Et tu parlais tout à l'heure de transpercer le plafond et d'aller sur Mars. Comment tu fais concrètement pour faire ça?
Alors, pour faire ça, plusieurs éléments. Lorsque vous gagnez enfin, très bien votre vie, que ce soit en salaire ou peu importe d'où viennent vos revenus, mais que vous gagnez vraiment bien, vous pouvez dépasser largement les 35%. Vous pouvez même monter à 70-80%. Mais là, il faut très bien gagner.
Donc
Donc,
c'est quoi? C'est le reste à vivre qui va être regardé dans ces cas-là plutôt?
c'est ça. J'ai jamais fait de différentiel. Donc, pour ceux qui se posent la question, pourquoi? Parce que j'ai pas trouvé de banque qui faisait du différentiel. Alors qu'il y en a, hein. Alors aujourd'hui peut-être plus, mais il y en avait à l'époque. Du coup, en gagnant très bien, vous pouvez dépasser ça. Après, vous avez d'autres systèmes en place où, en fait, vous pouvez faire un peu d'ingénierie financière. Donc, vous pouvez hypothéquer des biens, faire des prêts en face, faire de l'in-fine. Vous pouvez faire pas mal de choses derrière, mais il faut déjà avoir un sacré patrimoine. Du coup, le plus dur, c'est quand même le début de constituer son premier patrimoine. Je me rappelle quand j'étais petit, je m'intéressais à tout ce qui était défiscalisation et mon père il m'a dit, ouais, avant de faire ça, ce serait peut-être intéressant que tu gagnes ta vie, quoi. Donc, c'est un peu ça le conseil que je vais vous dire. Gagnez votre vie et après, vous trouverez des solutions. Deuxièmement, il y a un moment où vous êtes forcément plafonné et c'est là que rentre en compte la partie business. Et la partie business, faut vous dire qu'une entreprise peut emprunter grosso modo comme un particulier. Et du coup, vous créez une entreprise qui, par exemple, l'espace de coworking que j'ai, vous créez un espace de coworking, 250 000 euros de chiffre d'affaires, 34 000, 40 000 euros de marge. Vous faites ça pendant 3 ans et là, vous pouvez emprunter, faut voir, mais entre peut-être 500 000 et 1 million d'euros. Et vous êtes parti, vous en faites plein.
Donc c'est vraiment créer une société c'est te sortir de cette idée que tu es un individu et que tu vas, c'est d'augmenter ta surface en créant des sociétés. Mais bon, il faut que les sociétés soient rentables, j'imagine aussi.
Faut que ce soit rentable, faut que ça marche bien, faut que vous ayez du cash. Et en gros, votre idée, c'est comment, vu que l'unité de mesure pour avoir de l'endettement, c'est une personne morale ou une personne physique. Vous, personne physique, vous faites votre max par rapport à votre stratégie et vous passez aux personnes morales à côté. Par contre, c'est pour ça qu'il faut vraiment bien gérer ses finances. Plus vous avancez, plus il vous faut enfin, des épaules solides, mais ça va venir avec l'expérience, pour avoir de l'argent de côté quand vous avez un pépin. Et pour pouvoir enfin avoir des capacités financières, enfin toujours avoir des liquidités, quoi. En fait, le problème du FIRE, c'est si un jour vous vous plantez, c'est pas grave. Mais si vous vous plantez et que vous avez plus de cash, là, c'est chiant. Pourquoi? Parce que vous avez tous vos emprunts à rembourser. Disons que vous êtes même FIRE, vous arrêtez de bosser, vous avez toutes vos mensualités qui arrivent. Disons que vous avez 10 000 euros à rembourser par mois. Vous avez plus que 5 000 euros sur le compte. Bah, ça va assez vite, hein. Dans 6 mois, 1 an, votre bien est saisi, il est vendu. Et là, vous vous retrouvez à retourner grandement en arrière, hein. Après, c'est pas grave, mais ça arrive.
Ok. Mylène veut savoir, veut connaître ta stratégie pour sourcer des biens sur toute la France. Donc, tu as parlé de Metz, qui est évidemment pas quelque chose de très scalable, mais est-ce que je sais pas, tu passes par des plateformes en ligne? Tu disais que tu avais un agent de réseau, enfin, un réseau, un network d'agents que tu t'es constitué. Comment tu trouves tes biens?
Alors, la plupart en France, c'est toujours le cas. Le Bon Coin, ça marche bien. Il faut regarder un prix au mètre carré, du coup, qui est abordable par rapport à un loyer au mètre carré. Donc, une fois que vous maîtrisez ces ratios, vous vous rendez compte que tout ce qui est plus de 3 000 euros, enfin, ça dépend ce que vous faites comme investissement, en fait. Il faut voir votre thèse d'investissement. Mais vous vous rendez vite compte que dès que ça coûte plus de 3 000 euros du mètre carré en banlieue parisienne, ça marchera pas. Parce que même en faisant une colocation en bien des chambres, si c'est plus de 3 000 euros, vous allez avoir une rentable pourrie, quoi. Et après, dans le reste de la France, c'est pareil, il faut toujours regarder ces ratios-là. Ce que vous pouvez faire dans un premier temps, ça va être beaucoup moins sexy que ce que vous attendez, mais ce sera pas dans les stations balnéaires sympas, ce sera pas dans les belles villes, et vous faites des recherches immeubles, même tapez dans le Bon Coin maintenant, mettez immeuble 10%. Et en mettant juste ça, recherche toute la France, vous allez tomber sur des biens. Il faut juste regarder où ils sont. Et après, bonne chance. Parce qu'après, il faut quand même se dire, bon, est-ce que le bien il est valide? Est-ce qu'il y a des travaux? Est-ce qu'il y a vraiment des gens? Parce que c'est bien d'afficher une renta à 10-15%, mais si personne le loue, on va retrouver un truc où il n'y a personne. Donc après, il y aura un peu de travail à faire pour tester les vacances locatives, etc. Et pouvoir avancer. Les logiciels sur le secteur, alors j'en ai qui tournent, mais je ne suis pas très... Généralement, c'est trop tard. Par exemple, celui de rendement locatif, alors ça fait longtemps que je ne l'ai pas testé, mais donc ça vous permet d'avoir accès à des offres comme ça. Ils vous font des calculs automatiques. Et en fait, moi, je n'ai jamais acheté un bien avec ça. Généralement, je finis par déterminer à peu près une zone en trouvant des choses sur le bon coin. Une fois que j'ai déterminé une zone, je la creuse pour vérifier qu'elle a une réelle valeur. Donc là, c'est vraiment, est-ce que la population dévisse de 50% par an? Oui, ça peut arriver qu'il y ait des villes qui dévissent un peu, type Paris, mais ça va encore, parce que Paris, ça perd quand même beaucoup d'habitants chaque année. Et après, il faut vous faire votre expérience, c'est-à-dire commencer. En fait, le nerf de la guerre, c'est vraiment d'essayer de regarder et d'essayer de trouver des choses. En tout cas, je vous garantis que ça existe toujours aujourd'hui, mais que c'est beaucoup moins sexy qu'avant.
Ça marche. D'ailleurs, une technique qui est pas mal, si vous voulez tester une zone, ou même très précisément, si vous voulez tester un appart que vous regardez, je vous conseille de poster une annonce à la location pour un appart sur lequel vous avez posé une offre, idéalement avant. Et vous voyez, et si vous n'avez pas, en fait, quand même, je sais pas, 10, 15, 20 réponses dans la journée, c'est que ça risque d'être compliqué à louer. Donc, il y a d'autres choses, évidemment, à tester. Ça peut être une façon hyper simple de voir s'il y a de la tension locative ou pas. Parce que vous pouvez regarder tous les indicateurs que vous voulez. Finalement, c'est s'il y a des gens qui postulent pour votre annonce, ça veut dire qu'il y a de la demande.
Tu vois, c'est exactement ça. On l'a fait pour un appartement en région parisienne. Et c'est une colocation. Et on a pris vu qu'on a juste une journée pour se positionner avec l'agent, on a mis des prix. Tu vois, les chambres, on les louait 450. Là, on les a mis à 350. Et on a posté une annonce. Là, en un jour, on a eu entre 5 et 7 demandes pour location à un prix inférieur. Mais là, au moins, on sait que même à ce prix-là, qui est notre prix plancher, où on a une renta un peu dégueu, au moins, ça passe. Donc, on sait que c'est minimisé. Surtout, ne vous pressez pas. Le problème des agents, c'est qu'ils sont très bons pour faire de la vente parce que c'est des vendeurs. Et du coup, ils vont dire, ah, c'est que maintenant, allez-y, c'est vachement bien, c'est vachement bien. Le seul problème, c'est acheter un bien, vous le faites en deux secondes. Hein, c'est comme une boîte. Hein. Vous voulez acheter une boîte demain, moi, je vous en vends autant que vous voulez. Vous voulez faire de l'argent demain, là, c'est une autre question. Donc, et généralement, quand vous achetez un bien, vous mettez quand même de l'argent au début qui, pour vous, est quasiment impossible à rembourser sur 10 ou 20 ans. Hein. Parce que si vous économisez bien, vous êtes à 10 000 euros par mois. Vous achetez un bien à 250 000 balles, bon, si vous plantez vraiment, c'est un peu, bon, ce sera jamais catastrophique, mais c'est un peu compliqué, quoi.
Ça marche. Armand, on veut savoir, bon, tu as parlé tout à l'heure de ton coworking qui a été quand même très affecté par le Covid. Comment tu as géré le fait que, bah, d'un coup, les marchés boursiers tombaient, le coworking était vide, donc plutôt dur financièrement. Comment tu as géré ça? Et après, est-ce que tu as mis en place des choses pour... te hedger quelque part pour te protéger si ça devait se reproduire?
Ouais. Du coup, en bourse, j'ai eu comme perte latente au vrai crack Covid, là, le premier, j'ai eu 90 000 euros de perte latente sur à peu près 200 000 euros d'investis. Donc là, j'étais pas au top. On peut se prévenir contre ça. Donc en fait, vous mettez juste des ordres de vente à un palier que vous voulez adresser. Il y a une autre problématique en faisant ça, c'est lorsque vous mettez des ordres de vente, vous payez des frais, ce que vous vendez, et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est quand le marché descend, il descend généralement, alors ça peut descendre sur plusieurs jours, mais quand il remonte, il va remonter sur 3-4 jours. Du coup, en gros, le pire truc à faire, c'est le marché descend, vous vendez quand c'est en bas, parce que bon, vous avez l'impression que vous allez tout perdre de votre vie, et que là, en fait, vous allez louper les 4-5 jours, où vous allez faire 10% de perf. Et ces 10% de perf pendant 4 jours, c'est ça qui va vous faire regagner toute votre valeur. Donc bon, faut juste voir ça. Donc là maintenant, moi j'ai mis des... alors c'est différent parce que je risque de devoir consommer une partie du capital. Donc j'ai mis des ordres de vente avec des seuils. Donc il faut que je vois d'ailleurs
si... Au-dessus du prix d'achat ou au-dessus du prix actuel ou en dessous?
Non, en dessous, pardon.
Tu vois, là, c'est des stop limites, enfin, ouais. Tu coupes tes positions, en fait.
Okay. Ouais, je coupe mes positions. Alors, faut faire attention à la volatilité, tu vois, mais je coupe, en gros, faut que je vois, mais si ça fait moins 10%, je crois, ou 15%, ça coupe. Et là, je serais quand même en gain de, parce que j'ai fait 30% cette année, donc, je serais quand même en gain de pas mal. Et puis, là, je sors parce que j'ai potentiellement besoin de ce capital-là. Bref, faut faire attention sur les assurances vie, type, avec robot advisor, type Yomoni ou autre, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas mettre des seuils, vous ne pouvez pas couper vos positions. Et aujourd'hui, du coup, je pense que c'est avec la loi Pacte aussi, vous ne pouvez même plus ressortir de la bourse et être cash, donc avoir tout en liquidité. Donc vous pouvez diminuer. Donc moi, je suis en risque 10 sur 10 à chaque fois, super. Sauf que si je veux diminuer mon risque au maximum, je reste quand même à 20% exposé au marché. Il faut le savoir. Et ça prend du temps. Youmoney, si vous voulez changer, je ne l'avais jamais fait, donc je l'ai changé là. Ça m'a pris, plus d'une semaine entre recevoir le papier, le signer, etc. etc. Bref, il y a ça. Sur mes autres business, énormément de pertes de cash, très peu d'aide de l'État. Et du coup, heureusement que frugalité, j'avais pas mal de cash de côté, quoi. Et après, perso, c'était un niveau que moi de stress et de déception que j'avais pas franchi. Donc, c'était compliqué, quoi. Donc, j'ai pris quelques kilos, j'ai passé quelques jours dans mon lit et au bout d'un moment, c'est reparti, quoi.
Et donc là, aujourd'hui, si demain on fait face à une situation similaire, sur ton coworking, enfin, tu peux faire des choses pour te prémunir contre les pertes de loyer. Je sais pas, t'as pris des assurances, des choses comme ça.
J'ai fait des choses pour me prévenir. Par contre, j'ai pas pris d'assurance. Et je pense, d'ailleurs, faut regarder, mais je pense que les assurances aujourd'hui doivent être très chères.
Ah ouais, ça a dû exploser, ouais.
Du coup, je pense que faut vraiment. Je sais pas si ça vaut le coup. Là maintenant, je suis beaucoup plus. En fait, moi, j'ai des pareils sur mes business. Maintenant, j'ai des de façon un peu automatique. J'ai des go no go ou vendre pas vendre. Ou laisser tomber, etc. Donc, et j'ai restructuré ma partie entreprise pour diminuer les risques que moi je peux avoir personnellement.
Ça marche. Est-ce que tu as des recommandations pour se lancer dans le fire, des sites, des livres, des podcasts? Je pense que je connais ta réponse, mais est-ce que tu as des recommandations sur ça? Comment commencer, comment se lancer, les stratégies, etc.
Alors,
en français, j'imagine.
En français, alors déjà, je pense que mon podcast est pas mal. Du coup, qui s'appelle La retraite à 40 ans grâce à ma superbe éditrice Elodie. Du coup, le podcast, je pense qu'il est pas mal parce qu'à la fois, on raconte le profil de chacun. Donc vraiment, d'où ils viennent, pourquoi ils se sont lancés dans Fire. Et après, on passe un peu sur un sujet technique. Donc ça, je pense que c'est pas mal. Vous pouvez le trouver. Je crois qu'on était numéro 2 sur l'investissement. Donc ça avance bien, c'est cool. Et après, pour se lancer dans Fire de façon générale, il y a la communauté. Donc là, vous pouvez aller sur devenirfrugaliste.fr ou .com et vous cliquez sur rejoindre la communauté. Là, vous avez un super questionnaire de conseiller en gestion de patrimoine. Ne vous inquiétez pas. Ça permet juste de vérifier quel est le profil des personnes qui viennent. Et là, vous rentrez directement et vous posez. Vous avez un channel débutant. Vous pouvez commencer à avancer. Et après, dans les livres, ça dépend ce que vous voulez faire en premier. Du coup, moi, je vous encourage à regarder. Moi, je fais des meet-up ou des workshops normalement une fois par semaine. Il y a les replays. Voyez-vous ce que vous voulez faire et quelle est votre priorité en fonction de votre situation. Donc, si par exemple vous êtes en CDI, l'IMO c'est quand même pas mal. Si vous avez pas beaucoup de temps et que vous avez peur du risque de l'IMO, bon, ne faites pas d'IMO, faites autre chose. Enfin, après, faut se calibrer, quoi.
Top. ML veut savoir si je pense qu'en tant qu'étudiant, est-ce qu'on devrait commencer à investir en tant qu'étudiant et est-ce qu'on devrait commencer à faire BIMO tout de suite? Est-ce que c'est possible déjà d'emprunter en tant qu'étudiant?
Alors, investir tout de suite en tant qu'étudiant, oui. Toujours le plus classique, c'est d'ouvrir un PEA, une assurance vie, même si au début c'est pas les bons, c'est pas grave, mais de regarder quels sont les PEA, les assurances vie les moins chères. Hashtag bourse directe qui est pas mal, il y en a 2-3. Bourse directe, c'est un courtier. Une fois que vous avez ouvert votre compte, alors de temps en temps, bourse directe, je pense qu'ils sont pas très, très open là-dessus, mais vous mettez 50 euros et un truc qui vous fait mal en fait. La vraie notion, c'est qu'il faut mettre un montant d'argent qui vous fait mal quand ça monte et quand ça perd. Si c'est 50 euros, c'est 50 euros. Si c'est 10 euros, c'est 10 euros. Si c'est 1500 euros, vous mettez 1500 euros. Voilà, pour un truc, si vous perdez 1500 euros, vous êtes mal. Et vous suivez un peu la norme Fire globale qui est l'ETF Monde, qui est un truc, voilà. Vous commencez par ça. Vous faites ce premier investissement. Vous risquez de perdre une partie du capital si on a une crise demain. C'est pas grave, vous vivez le truc déjà. Il faut commencer un moment, il ne faut pas repousser. Ça, c'est très bien. Si vous voulez faire de l'IMO, même en tant qu'étudiant, donc ça dépend. Là, en fait, vous cumulez pas mal de problématiques. En tant qu'étudiant, il n'y a généralement pas de revenus, sauf si vous êtes alternant. Quand vous êtes alternant, vous n'êtes pas en CDI. Vous êtes plutôt jeune, donc quand vous allez voir votre banquier, il va regarder genre qu'est-ce qu'il fait le gamin. Ça nous est tous arrivé. Et après, donc en gros, vous ne rentrez pas dans les cases des banques. Si vous voulez même faire un crédit à la consommation, prendre encore plus de risques, ça peut être un peu compliqué. Si par contre, vous avez utilisé tous vos unfair advantage, si vous avez des parents qui ont la capacité d'épargne, qui sont un peu open, qui ont envie de vous encourager, vous pouvez le faire avec eux. Si vous avez des parents qui ont un peu d'argent qui dort, ils peuvent vous le donner, vous pouvez commencer avec ça. Le mieux, c'est si vous avez le temps et l'énergie, c'est d'utiliser quand vous avez le temps et l'énergie. vous savez pas trop de quoi la vie est faite demain. Tous ceux qui ont la trentaine, là, les trois quarts de vos potes, vous les voyez plus parce qu'ils ont des enfants. Et c'est une réalité. Quand vous commencez à avoir des enfants, c'est compliqué. Et surtout, vous pouvez moins économiser, moins gérer ça. Donc, le plutôt, oui, quand vous êtes étudiant, c'est très dur, mais au moins, la bourse, c'est accessible. L'IMO, ça peut le faire. Surtout que l'IMO, généralement, il faut pas mal de formations avant de se lancer. Et, mais par contre, c'est pas ce qu'il y a de plus simple.
Top. Et je pense vraiment que je pense que c'est, ouais, voilà, l'IMO, c'est assez, ça me semble assez compliqué. Par contre, investir 50 euros tous les mois en tant qu'étudiant et juste en appliquant la formule des intérêts composés, en fait, bah, tu vas voir que, je sais pas, si la bourse, le rendement de la bourse en moyenne, c'est 8% par an, entre 7 et 9, en fait, sur 30 ans, c'est énorme. Donc, ton unfair advantage, c'est que si t'as 18 ans, c'est que Victor et moi, on pourra jamais rattraper ces années-là. Donc, même si on a un gros capital, c'est les années jouant en ta faveur. Donc, investir tôt. Et il faut pas non plus oublier, je pense qu'en France, on adore l'immobilier, mais la bourse, c'est quand même magique parce qu'on fait rien. Il y a des entreprises qui travaillent, ils nous versent des dividendes. Il y a même des ETF qui capitalisent. Donc, on a littéralement rien à faire. Ça va monter, ça va descendre. Il faut un peu s'accrocher de temps en temps, mais c'est quand même mécaniquement, si on croit au capitalisme et si on croit au développement, en fait, la bourse va toujours monter. Donc, il y aura juste des à-coups. Donc, je pense que le PEA, c'est vraiment une excellente enveloppe pour se lancer. Dernière question, et après j'aurai un petit sondage pour vous pour définir le prochain sujet du talk. C'est Abdel qui veut savoir si tu privilégies les ETF capitalisants ou distribuants, et si, par ailleurs, tu investis aussi dans des actions à dividendes, qui est une thématique qui est quand même assez populaire.
Oui. Alors moi, je suis principalement ETF capitalisant. En gros, je choisis quand je veux sortir en faisant des ventes. Et après, sur ce qui est actions à dividendes, j'ai fait ça avant. Maintenant, je ne le fais plus. Pourquoi ? Parce que le temps de les choisir était trop long pour moi. Alors moi, je suis typique du lazy investment. C'est-à-dire que, en gros, bourse, je fais ETF, voire ETF thématique. Après, actions, donc, à un moment dans ma vie, j'étais assistant trader. J'ai perdu beaucoup d'argent et j'ai mis très longtemps à regagner l'argent que j'avais perdu très vite. Et du coup, en fait, je vois le temps que ça peut prendre de faire ses propres décisions pour investir en bourse. Ça peut être bien, mais il faut y passer du temps. Et du coup, moi, d'un point de vue ROI, mon temps est mieux utilisé ailleurs. Donc, par exemple, là, le truc que je devrais capitaliser énormément, c'est l'immobilier. Je devrais en faire 10 fois plus parce que là, je maîtrise le truc. Et les side business qui me rapportent beaucoup plus.
Et donc ça, c'est un peu je pense que c'est hyper intéressant, c'est ton approche qui est vraiment purement héroïste, c'est que ton temps a une valeur et du coup, aujourd'hui, tu préfères te dire que tu vas rien faire sur les ETF, tu vas être lazy et tu vas plutôt investir sur quelque chose sur lequel tu peux agir. Donc, je pense que ça, c'est aussi, je trouve, très américain comme mindset. C'est vraiment de, et d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure de voir sa vie sous forme de BP, de business plan, bah c'est un peu pareil, c'est voir son temps. En fait, on est comme une entreprise, on a du temps, on a une capacité qu'on peut utiliser. Et donc, passer son temps à trouver des actions qui payent des dividendes pour faire peut-être 1% de plus qu'un ETF capitalisant, bah c'est peut-être pas si rentable que ça parce que ce temps-là, il aurait pu être utilisé pour faire plein d'autres choses, lancer des business, etc. Super, je vais vous activer un sondage. J'ai 3 propositions pour le prochain talk. Donc, vous pouvez voter. Premier, c'est l'immobilier. Comment on achète 15 appartements en moins de 10 ans? Victor, tu es la bienvenue, évidemment, en tant que participant ou en tant que personne qui nous expliquera ça. Comment faire un fois 1000 en crypto? Alors, l'idée, c'est plutôt de vous montrer d'inviter quelqu'un qui a de l'expérience en crypto et qui a réussi à rentrer très tôt sur des projets qui ont fait des retours absolument hallucinants. Et comment choisir les actions à dividendes, comment choisir les meilleures actions à dividendes. Donc voilà, je vous laisse voter encore 2 minutes et ensuite on prendra simplement le sujet le plus populaire, comme d'habitude. C'est une démocratie ici. Et bien, super, Victor, déjà écoute, je vais déjà te remercier parce que c'était vraiment hyper, hyper intéressant. On se connaît pas depuis très longtemps avec Victor. Et donc, on s'est rencontrés, je crois qu'on a été introduit par Mathieu Stéphanie de la Martingale. Puis on s'est rencontrés à Paris. Et ce que j'apprécie vraiment dans ce que tu fais, c'est que t'es hyper ouvert sur déjà toute ton approche. Et finalement, tu redistribues beaucoup. Et je trouve que c'est très différent de ce qu'on voit souvent dans ce milieu. Il y a beaucoup de gens qui essaient de vendre des choses. Toi, finalement, t'essayes pas de convaincre les gens que c'est la bonne décision. Par contre, ceux qui ont envie de tenter, bah, t'es là, tu leur donnes des réponses, tu te donnes beaucoup de choses gratuitement. Donc, voilà. C'est hyper cool. Merci pour ta transparence ce soir. C'était hyper intéressant. J'espère que vous avez tous apprécié. N'hésitez pas à, vous pouvez envoyer des petits cœurs à Victor ou le remercier dans le chat. Écoute, Victor, si t'as un dernier commentaire, si tu veux, voilà, les petits cœurs arrivent pour
Oh, c'est
toi.
génial, j'adore. Allez-y, continuez là. Les petits cœurs, j'adore. Ben, je te remercie. Plaisir partagé. J'apprécie beaucoup. Je pense que la communauté Finari est très proche moi, des valeurs que j'ai, etc. Donc, moi, je trouve ça vraiment génial. Et puis, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont ici, qui vont bien avancer et que tu vas bien pouvoir accompagner.
Top. Très cool. Je rappelle que Finari n'est pas un outil purement fire, mais on y réfléchit. Et surtout, on a déjà mis en place des choses comme l'analyse des frais pour vous aider, pour vous accompagner. Donc, si vous n'avez pas de compte, inscrivez-vous. Si vous n'êtes toujours pas convaincu qu'il faut créer un compte, je ne sais pas quoi faire, mais créez-vous un compte. N'hésitez pas à participer à la communauté. Moi, je trouve que c'est hyper important de parler d'argent en France. C'est un sujet qui ne devrait pas être tabou. Donc, merci Victor de faire ce que tu fais. Merci à tous d'avoir participé. Je vous dis bonne soirée à tous.
Bonne soirée.
Bye
Et voilà, cet épisode de Finari Talk est déjà terminé. Envie de continuer la conversation avec d'autres investisseurs et investisseuses? Rejoignez-nous sur notre communauté community.finari.com. Et pour rejoindre Finari, rendez-vous sur les stores et sur finari.com. Vous gagnerez du temps et de l'argent en passant à Finari Plus, notre version premium, qui vous permettra de profiter de toutes nos fonctionnalités, telles que le mode famille, l'analyse des frais ou encore le suivi des dividendes. On vous offre 7 jours pour découvrir Finari Plus. Alors à bientôt !